enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Prenons place. Ouvrons l'évangile selon saint Luc, chapitre 24, les versets 1 à 8. Nous lisons. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés et quelques personnes les accompagnaient. Elles trouvaient que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent « Pourquoi ?» Cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux onze et à tous les autres. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Et mon thème sera une vie de résurrection. Une seconde lecture que nous trouvons dans l'épître de Paul aux Romains. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés pour être unis à Jésus-Christ, nous avons été baptisés en étant associés à sa mort par le baptême donc. Nous avons été mis au tombeau avec lui pour être associés à sa mort, afin que, tout comme le Christ a été ramené d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous vivions d'une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous serons également unis à lui par une résurrection semblable à la sienne. Amen. Sachons bien ceci, l'être humain que nous étions auparavant, a été mise à mort avec le Christ sur la croix, afin que notre nature pécheresse soit détruite et que nous ne soyons plus les esclaves du péché, car celui qui est mort est libéré du péché. Si nous sommes morts avec le Christ, nous sommes convaincus que nous vivrons aussi avec lui. En d'autres termes, nous ne vivrons avec lui que dans la mesure où nous sommes morts avec lui. Être croyant ne signifie donc pas avoir qu'une étiquette définissant l'Église à laquelle j'appartiens. Non, être croyant, c'est avoir rencontré le Christ vivant, c'est avoir accepté de mourir avec lui pour vivre une vie de résurrection avec lui. Chers amis, la résurrection est l'un des éléments essentiels de l'œuvre que Christ accomplit. Chaque événement est essentiel, bien sûr. Sa naissance, nous le savons, et bien dès le commencement, la venue du Christ est miraculeuse, puisque c'est le Saint-Esprit qui couvre Marie. Puis sa mort elle également est miraculeuse. Le centenier qui le voit mourir dit « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu ». Mais ce qui est le couronnement de tout cela, et ce qui donne à l'ensemble de l'Évangile et du message de la Bible toute sa force, c'est la résurrection du Christ. Jésus n'était pas seulement, comme certains le prétendent, un homme qui parlait bien ou un bon philosophe. Non, Jésus est le Fils de Dieu. Et c'est parce qu'il est Fils de Dieu qu'il est ressuscité des morts et qu'il est vivant parmi nous. Frères, sœurs, s'il n'y avait pas de résurrection des morts, notre foi serait vaine. L'apôtre Paul dit, et je lis là dans 1 Corinthiens, « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. » Ce matin, quelle joie de pouvoir affirmer haut et fort, non seulement Christ n'est pas mort, mais il est ressuscité, afin que nous ayons la vie de résurrection. Certains disent, oui, il est mort et il est resté dans le tombeau. Les soldats vont jusqu'à mentir, souvenez-vous. Eux qui étaient pétrifiés de peur devant la tombe, eux lorsque l'ange est descendu, qui était comme mort. Il venait de vivre quelque chose d'extraordinaire, de surnaturel. La pierre de la tombe va être roulée. Ces mêmes soldats qui ont vu la gloire de Dieu, qui ont vu des choses miraculeuses, sont les mêmes qui vont accepter pour de l'argent de mentir. D'ailleurs, réfléchissez bien. Lorsque Christ, dans le jardin de Gethsémané, fut arrêté, Pierre, à un moment donné, dans son élan, va couper l'oreille du centenier. Et la Bible nous dit que Jésus prit l'oreille et guérit le centenier. Franchement, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de greffes. C'est certainement la première greffe d'oreille qui s'est faite. Regardez jusqu'à quel point l'être humain peut être endurci. Les soldats voient là en direct un miracle. On ramasse une oreille, c'est quand même impressionnant. Enfin, j'avais jamais d'oreille en main, mais j'imagine. Et on m'a dit qu'une oreille coupée saigne énormément. On ramasse donc l'oreille, il lui met l'oreille en place, le soldat est guéri, les autres ne réagissent pas. Les autres soldats auraient dû dire, mais purée, on vient de voir un miracle sous nos yeux. On vient de voir quelque chose d'extraordinaire. Mais non, on ne peut pas arrêter cet homme. C'est pas possible. Ils vont quand même l'arrêter, ils vont quand même l'emmener. Ceux qui surveilleront la tombe verront un miracle extraordinaire. Le tombeau s'ouvrir, l'ange descendre, ils sont pétrifiés comme morts, mais pour un peu d'argent, ils sont prêts à oublier tout ce qu'ils ont vécu. Bien des gens me disent aujourd'hui, monsieur, si je vois un miracle, je crois. Eh bien, j'aimerais vous dire, c'est pas vrai. C'est pas parce que vous voyez un miracle que vous croirez. J'ai vu des gens non seulement voir des miracles, mais les vivre. C'est pas pour autant qu'ils ont plus cru. La foi se base sur autre chose. La foi est une démarche personnelle vers Dieu. Alors qu'un miracle interpelle, oui. Qu'un miracle peut profondément, eh bien, nous travailler, oui. Mais il ne nous sauvera jamais. Jamais. La résurrection occupait une place centrale dans l'enseignement des disciples. Voyez ce qu'il est dit. Acte 4, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux. D'ailleurs, la résurrection est l'une des deux vérités fondamentales que nous trouvons dans les Écritures. Lorsque Paul dit aux Romains, chapitre 10, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Hier, je partais pour faire une balade, j'ai fait 25 mètres jusqu'au portail de mon voisin. Et là, on a commencé à parler de tout, et puis finalement, on a terminé avec la résurrection. Et je lui disais, mais écoutez, s'il n'y a pas de vie après la vie, alors la vie sur la terre n'a pas de sens. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Frank Braido qui était ici, qui avait donné son témoignage de résurrection. Cet homme avait une leucémie foudroyante, il est mort de la leucémie foudroyante, le sang sortait des yeux. Partout il y avait un orifice dans son corps, le sang coulait, c'est comme ça qu'il est mort. Il est mort à l'hôpital, il est mort sous assistance de 17 machines, sa mort a été fermement constatée, le cancer du sang avait eu raison de lui, mais il avait une maman qui croyait que Christ pouvait le ramener à la vie. Alors il fallait plus que le ramener à la vie, parce que ramener un leucémique à la vie avec une leucémie, c'était simplement lui dire qu'il allait mourir 15 jours plus tard. Les médecins l'ont laissé prier pendant un moment. Ils se sont dit, c'est la maman, elle est émue, nous la comprenons. Et puis ils sont revenus en disant, maintenant il faut quitter la chambre. Et la maman disait, je ne quitterai pas parce que je crois que Christ est ressuscité, qu'il est capable de le toucher. À cette époque-là, Franck avait 27 ans. Et voilà qu'après tout un temps où elle priait là dans cette chambre, la puissance de Dieu descendra sur lui. Et Franck nous racontera ici, pour ceux qui étaient là au moment où il est venu nous voir, comment il était déjà parti dans l'éternité, comment il avait vu le Seigneur Jésus et comment il réintégrera son corps et ressuscitera. Il est revenu à la vie, mais non seulement il est revenu à la vie, il était guéri, totalement guéri de sa leucémie. Les médecins, les chirurgiens, l'hôpital l'a gardé encore 3 mois pour refaire absolument tous les tests possibles et impossibles. Il m'a dit régulièrement, les médecins le rappellent pour des conférences. où il présente son cas, parce que son cas est absolument pas explicable. Il m'a dit, j'ai un dossier comme ça. Ils ont essayé par A plus B d'expliquer ce qui s'est passé. Ils n'y arrivent pas, tout simplement parce que Christ m'a ressuscité. Cependant, voilà ce qu'il me dit. Il me dit, Samuel, depuis que j'ai vu le ciel, ma seule raison de vivre, c'est de retourner de là où j'étais déjà. Il dit, ma seule raison de vivre, tout ce que nous avons ici-bas, même les plus belles des maisons, ne saurait pas être comparable. J'ai même pas le droit de le comparer à ce que j'ai vu là-bas. Bien aimé, pour vous qui peut-être êtes là et qui dites, après la mort, tout est terminé. J'aimerais vous dire, après la mort, tout commence. Et Christ est ressuscité des morts pour nous rappeler qu'il y a une vie après la vie. Imaginez des jumeaux dans le sein de leur maman. Est-ce que vous pourriez imaginer des jumeaux qui se parlent l'un à l'autre et un dit à l'autre, de toute manière, une fois qu'on sort d'ici, tout est terminé. Eh oui. Pourquoi devrait-il croire qu'il y a quelque chose d'autre? Il ne le voit pas. Moi, les gens me disent, ce que je ne vois pas, je ne le crois pas. Je pense que vous croyez tous avoir un cerveau. Est-ce que vous l'avez vu avec vos yeux, à moins d'avoir passé un IRM? Moi, je n'ai jamais vu mon cerveau. Mais même s'il n'est pas très grand, je sais quand même qu'il y a un minimum. J'avais au moins le minimum qu'il fallait pour que ma femme me marie. Je ne l'ai pas vu, mais je sais que j'en ai un. Je n'ai pas vu encore le ciel, mais je sais que le ciel m'attend. Et mes amis, ce matin, je m'adresse également aux téléspectateurs. Le seul moyen que vous avez pour rentrer dans le ciel, c'est d'emprunter la porte. Jésus a dit, je suis la porte, nul ne vient au Père que par moi. Il est la porte. Et si donc il est la porte, il y a un passage obligé, c'est celui de la croix. Vous ne pouvez être sauvé sans passer par la croix. Vous ne pouvez voir le ciel sans passer par la croix. Et c'est là que j'aimerais maintenant eh bien, m'arrêter. J'aimerais m'adresser également aux croyants dans l'Église parce que je crois qu'il y a dans ce message pour vous des éléments qui vous permettront de redevenir vainqueurs dans des domaines où vous êtes en train de perdre du terrain. Je me suis rendu compte avec le temps, avec le ministère, que bien des chrétiens n'avaient pas conscience de ce que Christ a accompli pour eux à la croix. Bien des croyants n'ont pas conscience du tout est accompli. Quelles sont les conséquences? Les conséquences, c'est qu'ils ne sont jamais capables d'entrer réellement dans la vie de résurrection. Jamais. Et je vais vous expliquer pourquoi ils n'arrivent pas à entrer dans la vie de résurrection. D'abord, resituons certains points. Je prêche ce matin l'ABC de l'évangile, mais vous savez parfois, à force de s'occuper de l'X, Y, Z, on ne se souvient même plus de l'ABC. Alors ce matin, revenons à l'ABC. Que dit la Bible? La mort de Jésus pour vous et pour moi est capitale. Il est dit dans Hébreux 10, Jésus-Christ a fait la volonté de Dieu, il s'est offert lui-même une fois pour toutes, et c'est ainsi que nous sommes purifiés du péché. Et c'est ainsi et non pas autrement. Ce n'est pas par nos œuvres, ce ne sont pas par nos heures de prière et de lecture de la Bible, quand même les heures de prière et les heures de lecture de la Bible sont excellentes, ces choses-là ne nous purifient pas. Ce n'est pas en nous que nous trouvons la force de la purification de nos péchés, mais en lui. C'est lui qui a tout accompli. Regardez, toujours dans Hébreux 10, le Christ, par contre, a offert un seul sacrifice pour les péchés, et cela pour toujours. Puis, il s'est assis à la droite de Dieu. Un peu plus loin, ainsi par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il purifie du péché. Et il termine en disant, « Je ne me souviendrai plus de leurs fautes et de leurs péchés. » Or, si les péchés sont pardonnés, il n'est plus nécessaire de présenter une offrande à cet effet. Parfois, il me semble que les chrétiens n'ont pas saisi ça. Vous demandez pour la millième fois pardon pour les péchés de votre passé. Mon frère, ma sœur, la Bible me dit que Christ a tout accompli. La Bible va plus loin, elle me dit là, il n'est plus nécessaire de présenter une offrande. Tu as reconnu, tu t'es repenti, L'œuvre pour toi à la croix est parfaite. La croix marque une rupture totale avec ton passé, comme la mort marque une rupture avec la vie. Imprime cela dans ton cœur, c'est extrêmement important. La vraie bataille spirituelle, en fait, consiste à réaliser cela par la foi et à triompher à cause de cela dans nos vies. La croix a été la fin de la vie terrestre de Jésus. La croix met une rupture totale entre la vie et la mort. Mes amis, la croix, c'est une rupture totale avec ton passé. J'aimerais te dire qu'à la croix, Jésus t'a redonné un casier judiciaire spirituel vierge. Dis-le à ton voisin. Vierge. Quoi que tu aies fait, quels que soient les actes de ton passé, la Bible me dit que tout est accompli pour toi. La croix, c'est une croix sur mon passé. Malheureusement, je vois beaucoup de croyants fouiller constamment dans leur passé. Mon frère, ma sœur, tu vis toujours encore sous l'esclavage de tes péchés passés. Et je vais te dire que, à mon sens, c'est extrêmement grave. Pourquoi ? Souvenons-nous d'un élément essentiel dans les armes que Satan utilise. L'un des éléments essentiels, c'est le doute, n'est-ce pas ? Rappelez-vous comment il a tenté Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et dites-vous que quand il vient avec le doute, il vient avec des questions telles que « T'es sûr que t'es pardonné ? T'es sûr que l'adultère que t'as commis il y a 15 ans, c'est pardonné ? T'es réellement sûr que l'occultisme que t'as fait il y a 20 ans, tu en es libre ? Est-ce que tu es sûr que je n'ai plus de droit sur toi ? Tu sens des oppressions, tu vis. Est-ce que tu es sûr ? Il vient, le tentateur, le menteur, en remettant en question ce que Christ a fait. Moi, j'aimerais vous dire, dites-lui menteur. Parce que la Bible me dit que le diable est un menteur dès le commencement. Écoutez ce que Paul déclare aux Romains. Et j'aimerais vraiment que nous serrions cela dans nos cœurs. Frères et sœurs, il y aura des victoires spirituelles ce matin si vous ressaisissez à nouveau l'œuvre de Christ pour vous à la croix. Écoutez bien. Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? Romains 8. Personne, car c'est Dieu qui les déclare non coupables. Qui peut alors les condamner ? Personne, car Jésus-Christ est celui qui est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il prie en notre faveur. Mon frère, ma sœur, qui peut encore m'accuser sur mon passé ? La Bible me dit personne, car Dieu lui-même me déclare non coupable. Si Dieu me déclare non coupable, alors pourquoi me laisserais-je encore tourmenter par le passé ? Si Dieu me déclare non coupable, alors pourquoi Satan aurait-il encore des droits sur ce que j'ai confessé, abandonné et ce qui a été pardonné ? Si je suis déclaré non coupable, alors il ne peut plus venir m'accuser. Il n'a plus de droits. Lorsque nous cédons à la tentation de croire ce qu'il nous dit, je vais vous dire ce que nous faisons. En d'autres mots, nous péchons contre Dieu, parce que nous doutons de l'œuvre parfaite à la croix. Nous pensons que la force de nous purifier, d'être droit, réside en nous-mêmes, alors qu'en nous, nous n'avons rien de bon. C'est lui qui a tout accompli pour nous, là-bas. Frères et sœurs, lorsque nous doutons, nous donnons accès au malin. L'apôtre Paul dit, ne donnez pas accès au malin, pas seulement par la colère, par le doute. Ne donnez pas accès au malin, tout est accompli. Tout est accompli. Tu n'as plus à revenir dans ton passé. Ton passé, Jésus, dans la mesure où tu t'es repenti, où tu es né de nouveau, ton passé, il l'a effacé. Il dit dans l'Épître aux Hébreux, Qu'en sera-t-il alors de celui qui méprise le Fils de Dieu, qui considère comme négligeable le sang de l'Alliance par lequel il a été purifié et qui insulte l'Esprit source de grâce? Vous pouvez deviner combien pire sera la peine qu'il méritera. Alors évidemment, il est la question de gens qui pêchent volontairement. Mais lorsque je doute de l'œuvre de la croix, est-ce que je ne tiens pas pour négligeable le sang de l'Alliance? Parce que où le sang de l'Alliance a été réellement versé, il est parfait et puissant pour me délivrer, ou alors il ne l'est pas. Mais s'il ne l'est pas, il ne le sera jamais. Et s'il ne le sera jamais, tu ne seras jamais réellement pardonné de tes péchés passés. Tu pourras faire ce que tu veux, aller où tu veux. Tu pourras essayer de faire tous les efforts que tu veux, tu ne seras jamais, jamais, jamais débarrassé. Si ce n'est pas la croix au moment où tu viens, ce ne sera jamais. Et si je doute, en laissant au diable un accès par la crainte, par le fait que oui, il pourrait avoir un droit sur moi à cause de l'adultère passé, à cause de ceci. En d'autres mots, je tiens pour nul le sang de l'Alliance, parce que ça signifierait que son sang n'a pas été assez puissant pour me laver et pour me délivrer. La croix, c'est un miracle. L'œuvre à la croix est miraculeuse, elle est parfaite, elle est puissante, et c'est pourquoi le seul moyen d'être sauvé, c'est de passer par la croix. Il n'y en a pas d'autre. C'est le seul endroit où tu seras purifié. Des milliers de chrétiens vivent encore dans leur passé. Des milliers vivent sous le joug de leur passé. Satan connaît parfaitement nos faiblesses. Il sait comment nous y amener. Frère, combien de fois n'ai-je pas vu des personnes se repentir pour la 50e fois au sujet du même péché? Ils vont chercher quelqu'un à se confesser constamment. Ils vont le dire à l'un, tu sais, j'ai fait ça. Ils vont le dire à l'autre. Ils vont chez 50 personnes. Ils vont demander pardon, ils vont s'humilier, ils vont jeûner, on va les délivrer, on va faire toutes sortes de choses. Et ils reviendront toujours au point de départ. Parce que leur problème, c'est de croire que ce que Christ a fait pour eux à la croix est pleinement accompli. Tu n'as rien à rajouter. Il n'y a rien à rajouter. Il n'y a rien à rajouter. Son sang est puissant pour nous libérer. Comment triompher quand on est dans cette situation-là? Écoutez ce que dit la Bible, Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il n'est jamais dit qu'il ne viendra pas. Il n'est jamais dit qu'il ne viendra pas vous tenter. Il n'est jamais dit qu'il ne viendra pas essayer de semer le doute. Mais la Bible me dit et te dit, soumets-toi donc à Dieu, résiste au diable et il fuira loin de toi. Qu'est-ce que me soumettre à Dieu? Si ce n'est croire à sa parole et confesser sa parole. C'est ça notre force. Notre force ne réside pas dans des formules que nous aurions. Non, non, notre force réside dans la parole. Le ciel et la terre passeront, mais la parole demeurera éternellement. Jésus est la parole. Jésus, la parole de Dieu, s'est donné volontairement pour nous et c'est en lui que nous avons autorité sur le diable et en rien d'autre. Mon frère, ma sœur, dans Colossiens 2, je vous lis ce texte pour que vous le serriez en vous. Quand le diable vient te dire, de toute façon, avant ta conversion, tu as fait ceci, tu as fait cela, j'ai un droit sur toi, ton passé te rattrape, dites-lui simplement, le sang de Jésus me purifie. Je suis non coupable. Et écoute bien Satan, Jésus t'a écrasé la tête. Quatrièmement, autrefois, dit Paul, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes et parce que vous étiez des incirconcis, des païens. Mais maintenant, Dieu vous a fait revivre avec le Christ, il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a annulé le document qui nous accusait et qui nous était contraire par ses dispositions. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. C'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités et pouvoirs spirituels. Comprenez-vous ce que je lis là? Mon frère, ma sœur, en d'autres mots, l'acte dont les ordonnances te condamnaient, l'acte sur lequel était marqué ton passé, adultère, menteur, hypocrite, violent, occulte, spirit, cet acte, quand tu es venu à Jésus, la Bible me dit qu'il a annulé le document qui m'accusait, le chef d'accusation a été détruit, il l'a supprimé en le clouant à la croix, mais maintenant ça va plus loin. C'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités. Est-ce que tu te rends compte de l'autorité que tu as? Elle réside en Christ. Et si tu as de l'autorité, c'est pas parce que tu fais ceci ou cela, tu as de l'autorité parce que Christ te l'a donné en te libérant de l'acte qui te condamnait. Tu es donc maintenant capable de résister à l'ennemi de ton âme. Tu es donc capable de lui dire, au nom de Jésus, je te résiste en face. Le sang de Jésus m'a purifié, j'ai autorité sur toi. Le plus petit parmi nous peut le faire. Parce que le plus petit parmi nous a autant d'autorité que le plus grand en Christ. L'autorité ne lui vient pas des années de conversion, l'autorité lui vient de ce que Jésus a accompli pour lui à la croix. Est-ce que vous pouvez dire amen à cela? Oh mon frère, ma sœur, tu es vaincu, Satan, à cause du sang de Jésus. J'aimerais vous lire un texte qui m'a fait tellement de bien. Moi, quand ce message est venu, et je crois vraiment que le Saint-Esprit me parlait, j'écrivais tout seul, là, c'est comme s'il me disait, dis ça. Écoute bien maintenant. Dans Apocalypse 12, versets 10 à 11, il est dit, « Puis j'entendis une voix forte dans le ciel qui disait, « Maintenant le temps du salut est arrivé. Maintenant notre Dieu a manifesté sa puissance et son règne. Maintenant l'autorité est entre les mains de son Messie, car il a jeté hors du ciel l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Nos frères ont remporté la victoire sur lui. Comment ? Ça va nous être dit. Grâce au sang de l'agneau et la parole dont ils ont témoigné. Ils ont remporté la victoire. Comment ? Grâce au sang de l'agneau et à la parole dont ils ont témoigné. Mon frère, ma sœur, tu remporteras la victoire uniquement grâce au sang de l'agneau. Pourquoi ? Parce que ce sang est efficace pour te purifier entièrement. Parce que ce sang est efficace pour te rendre libre dans les temps de délivrance que j'ai connus. Dans des moments où nous étions confrontés à des personnes possédées, lorsque je commençais à invoquer le nom de Jésus et le sang de Jésus, les démons ne supportaient plus. Me revient ce témoignage que le frère Reinhard Bonnke avait donné. Dans une de ses campagnes d'évangélisation en Amérique du Sud, arrive un homme à la fin, un homme déjà âgé, des cheveux blancs. Et puis cet homme lui dit, « Pasteur Bonnke, moi, je ne pourrai jamais recevoir Jésus dans ma vie. » Et puis Reinhard lui dit, « Pourquoi, grand-père ?» Il dit, « Parce que j'étais nazi, j'ai là la croix gammée, brûlée sous mon bras. Et j'ai maudit les Juifs, et j'ai maudit ce Juif de Jésus. Jamais il ne pourrait me pardonner une telle chose. » Il dit, « Je suis tourmenté depuis la guerre. La nuit, j'ai des cauchemars. Je sens des serpents qui, eh bien, sont là sur mon ventre. Je peux pas. » Et là, Reinhard lui dit, « Quoi que vous ayez fait, quelle que soit la gravité de votre péché, le sang de Jésus est plus fort que tout ce que vous avez pu dire et faire. Et si vous l'invoquez, il viendra à votre secours. » Et le frère Reinhard dit, à ce moment-là, ce vieil homme se jette à genoux et commence à hurler, « Jésus de Nazareth, je te demande pardon pour mes péchés. Je ne suis pas digne d'être sauvé. Je mérite l'enfer. Mais c'est à cause de ce que cet homme a dit, parce que tu es mort pour moi, je crie vers toi et je te demande pardon de t'avoir insulté et je te demande pardon pour le mal que je t'ai fait. » Et il s'est mis à pleurer. Le frère prie pour lui. Cet homme part. Le lendemain, il revient et de loin crie, « Bonnke ! Bonnke ! » Le frère Reinhard l'entend crier et voit l'homme aux cheveux blancs et dit, « Grand-père, il dit, il n'y a plus de serpents, il n'y a plus de cauchemars. C'est la première fois dans toutes ces années que j'ai dormi et que je sais, je suis sauvé. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Frères et sœurs, ne doute pas de ce qu'il a fait pour toi. Le meilleur moyen que le diable a de prendre des droits sur ta vie, c'est de remettre en question ce que Christ a fait pour toi. Alors tu vas me dire peut-être, oui mais frère, quand même, j'aimerais vous dire, ne confondez pas le pardon de vos péchés avec les conséquences liées à votre péché. Je prends un exemple. Dans le passé, vous trompiez votre femme, vous étiez adultère et tout ce que vous voudriez. Malheureusement, à cause de cela, votre couple a explosé, vous avez divorcé, vous avez laissé 3 ou 4 enfants. Entre-temps, vous vous étiez remarié, vous ne connaissiez pas le Seigneur. Et puis quand vous êtes arrivé au Seigneur, vous étiez dans l'état où vous étiez, marié, peut-être avec un nouvel enfant. Le tribunal vous a demandé de payer pour vos 3 premiers enfants. Ce n'est pas parce que vous êtes chrétien et pardonné maintenant que vous êtes libre des conséquences. Est-ce que vous me comprenez? N'allez pas demain au tribunal dire « Attendez, le pasteur, il a dit, on est libre. Terminé. Plus de pension alimentaire. » Non, tu es pardonné. Mais les conséquences, tu dois les assumer. Tu es pardonné. Le pardon est accompli. Ton adultère est pardonné. On ne reviendra plus jamais là-dessus. Mais les conséquences, elles sont là. Alors certains me diront « Oui, mais frères, vous comprenez, qu'en est-il du péché dans ma marche journalière ? Je suis chrétien, mais il m'arrive encore de pécher. » Puis-je vous dire ce que dit la Bible ? Dans Jean 13, il est dit, Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, lorsque Jésus leur lavera les pieds, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Il voulait tout de suite tout, hein. Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Et là, il parlait de Judas, « car il connaissait celui qui le livrait. » Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds. Mon frère, ma sœur, dans les eaux du baptême, tu t'es engagé avec Christ. Tu t'es laissé identifier à sa mort et à sa résurrection. Ton passé, Christ a payé pour. Maintenant, c'est dans ta marche journalière. S'il t'arrive de pécher, repens-toi. Regardez ce que dit, eh bien, 1 Jean 1,7. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Il ne s'agit pas là des péchés du passé qui ont été une fois pour toutes effacés. Il s'agit de ces péchés qui collent à nos pieds lorsque nous marchons. Il nous lave et nous purifie. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle ? Frères et sœurs, ce matin, j'aimerais vous dire que, et terminer par cela, la vie de résurrection, en fait, elle ne commence pas le jour où vous mourrez, où vous serez enterré dans le cimetière. La vie de résurrection, mon frère, ma sœur, a commencé le jour où tu es mort avec lui dans les eaux du baptême et ressuscité avec lui. C'est là, souvent, on parle de la résurrection comme d'un événement à venir. Moi, j'aimerais te dire que la vie de résurrection a commencé le jour où tu es mort avec lui pour ressusciter avec lui. Alors, en quoi consiste cette vie de résurrection ? Eh bien, Romains 6,6, sachons bien ceci. L'être humain que nous étions auparavant a été mis à mort avec le Christ sur la croix afin que notre nature pécheresse soit détruite et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Un peu plus loin, dans 1 Jean 5,18, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Qui est né de Dieu ici ? Lève-moi la main. Du coup, il y a moins de mains là. La Bible me dit, et te dit ce matin, et Christ dit, que maintenant que tu es ressuscité, le principe de vie qui t'anime est un principe de vie dans lequel tu es mort au péché. Je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que ça veut dire que tes pieds ne se salissent pas de temps en temps ? Parfois, à cause de moi, Dominique s'énerve. Voilà, à cause de moi. Et quand elle s'énerve, parfois elle me dit certaines choses. Parfois c'est moi qui pique la mouche. Souvent, tu es sûr que tu es marié avec moi ? Hein, souvent. Moi, je n'ai pas vu que c'était souvent. Hein. Et donc, à moi de me repentir à ce moment-là. Prendre le téléphone, lui téléphoner. Chérie, j'ai exagéré, je te demande pardon. Je me repens platement. Et je sais qu'elle aime quand je téléphone comme ça. Encore, encore, vas-y, encore. Plus bas, plat, c'est encore pas assez bas. Plus plat encore. Plus plat. Cependant, le principe de vie qui m'anime est inscrit là. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Écoute bien maintenant, et le malin ne le touche pas. Yeah! Vous avez mangé des glaçons avant de venir ce matin? Est-ce que je peux répéter? Et le malin ne le touche pas. Et le malin ne le touche pas. Je suis fort parce que Christ a payé pour moi. Je refuse de mener une vie dans le péché et j'ai donc une autorité. Ils marcheront sur les serpents et les scorpions et toute la puissance des ténèbres et rien ne pourra leur nuire. Satan est le grand perdant, le grand perdant, le grand perdant. Satan est le grand perdant. Le grand perdant éternellement. Mais Jésus est le grand vainqueur. Oh, le grand vainqueur. Le grand vainqueur. Jésus est le grand vainqueur. Le grand vainqueur éternellement. J'ai encore 2 minutes pour terminer. La parole nous avertit, par contre, de ne pas pécher volontairement. Il y a des péchés que nous avons calculés. Il est dit, car si nous continuons volontairement à pécher après avoir appris à connaître la vérité, il n'y a plus de sacrifice qui puisse enlever les péchés. Voyez l'exemple d'Ananias et de Saphira. C'est quand même très radical. J'ai vu des personnes pécher volontairement. Vous savez, par exemple, vous faites une affaire pour une maison. Faites une affaire. Vous escroquez celui à qui vous achetez la maison, vous faites des dessous de table, et après vous demandez pardon au Seigneur, il faut bénir la maison. Vous croyez que ça marche? C'est comme si moi je vous vole la voiture, et ensuite je viens vous demander pardon, mais je la garde. Hein. Ça vous ferait plaisir. Je te demande pardon, mais je la garde. Frère, sœur, on quitte sa femme, on va avec une autre femme, on la marie, et ensuite, Seigneur, tu dois nous bénir. Mais c'est nulle part écrit ça. Quand on est enfant de Dieu, on ne peut pas, on n'a pas le droit de nous mettre dans une situation où alors on s'impose à Dieu et lui devrait nous bénir. Vous pouvez vous repentir alors 50 fois. Il est important que nous considérions que si, eh bien nous péchons volontairement. La Bible est claire. Il n'y a que la repentance et il n'y a que la restauration des choses qui puisse ramener la paix. Alors, je voudrais vous laisser avec cette pensée. Comme Jésus ne fut plus soumis physiquement aux contraintes naturelles, vous savez qu'il passait les murs, vous savez qu'il se déplaçait, en un instant, ça serait pratique qu'on passe les murs, hein, hein. N'essayez pas, pour l'instant, vous ne passez pas encore. Je ne voudrais pas que vous reveniez... pas que vous dites au pasteur, ah, le pasteur, il a dit maintenant, je suis déjà un ressuscité. Puis quand tu as passé et que tu te retournes, on dirait un bulldog. Nous devons, comme lui, n'était plus soumis aux exigences physiques, nous devons, nous, ne plus nous soumettre aux exigences de la chair. Et là, il y a une phrase qui m'a frappé. Enfin, frappé, je m'entends. La question que les anges posent aux femmes. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est ?» vivant. Alors ma question ce matin, c'est pourquoi trouve-t-on souvent parmi les morts de ce monde ceux qui devaient être vivants? Pourquoi est-ce qu'on trouve parfois les chrétiens dans des endroits où ils ne devraient pas se trouver? Pourquoi voit-on parfois des chrétiens... Oui, ah ben frère, tu comprends, là, hier soir on a vraiment fêté Pâques. Mais à tel point qu'on ne pouvait plus prendre la voiture. Pourquoi? Faut-il ne plus être en contact avec les non-croyants? Non, au contraire. Soyons des témoins, soyons amis, soyons faisants. Mais les lieux de perdition ne devraient plus voir des hommes et des femmes qui ont été sauvés. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Qu'est-ce que tu cherches? Les jeunes qui sont là, qu'est-ce que vous cherchez parmi les morts? Il n'y a plus rien à chercher là-bas. En lui, j'ai tout trouvé. En lui, j'ai tout trouvé. Et frères et sœurs, pour terminer, pourquoi nous préoccuper tellement et essentiellement et premièrement de ce corps qui est sûrement la partie de notre être qui part la première? Vous l'avez déjà remarqué? Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous n'empêchez pas vos cheveux de devenir gris. Vous pouvez l'éteindre. En dessous, il continue. Elle est belle ta teinte, ma sœur, mon frère, elle est belle. Mais en dessous, c'est la pure vérité. Vous avez beau essayer de vous cacher la face à vous-même. Les crèmes, moi, j'aime ce truc-là, les crèmes anti-rides. Comment ôter les pas de doigts et... Tu peux tirer la peau. Aujourd'hui, on peut même faire un sac. Mais la réalité, c'est que tu vieillis quand même. Tu vieillis quand même. T'as beau tout faire ce que tu veux, les dents, elles échaussent. Et petit à petit, t'as l'impression d'avoir nouveau 3 ans. Et t'as vu là. Et puis, tu continues et un beau jour, viens mamie, on va aller au culte. Hein. Mon frère, ma sœur, notre corps est appelé à retourner à la poussière d'où il a été tiré. Mais nous partirons près du Seigneur. Il est vivant pour toujours. Alors au lieu de prendre 3 heures à te maquiller, mes sœurs, c'est joli un peu. C'est joli, mais il y a des fois, c'est... Vous savez, parfois je rentre dans des maisons, franchement, j'ai envie de les attaquer au tribunal pour publicité mensongère. Parce que comme j'arrive sans les prévenir, je vois les photos où elles sont bien maquillées, et là je les rencontre sans maquillage, je me dis, c'est pas les mêmes. Et publicité mensongère. Que vous soyez belles, mes frères, que vous soyez beaux, très bien. Que vous veillez à ne pas développer des abdominaux trop proéminents. Très bien. Mais enfin, occupons-nous de ce qui est éternel. Et je vous lirai pour terminer 3 textes que j'aimerais vous laisser. La Bible dit que la vie est dans le sang. Vous êtes d'accord? Eh bien, il nous est dit que le sang de Jésus fut répandu pour nous. Donc la vie de Jésus fut répandue pour nous. Lorsque le sang de Jésus me couvre et me purifie, en d'autres termes, la vie de Christ prend place en moi. Deuxièmement, si Jésus a donné sa vie, c'est pour que moi, je marche en nouveauté de vie. Jean 6, 47, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Tu as déjà la vie éternelle. Est-ce que tu peux mesurer cela? Béatrice, tu es éternelle. Tu devrais hurler. Allez, on réessaye. Béatrice, tu es éternelle. Vous l'avez entendu? Ouais, ça vous dites oui pour lui rendre service, hein, mais je vous connais. Joseph, tu as déjà la vie éternelle. Amen! C'est un homme, hein? Maintenant, laissons-nous encourager, non pas par le présent, mais par ce qui est à venir. Écoutez bien, ça nous aide à prendre des dispositions. Je cite Moïse en premier. Par la foi, Moïse, devenu grand, renonça au titre de fils de la fille du Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir des plaisirs momentanés du péché. Il estima qu'être méprisé comme le Messie avait beaucoup plus de valeur que les trésors de l'Égypte. Pourquoi? Car il gardait les yeux fixés sur la récompense future. C'est comme ça que les chrétiens devraient vivre. Pas avec juste le bout de leur nez, mais la gloire à venir. Je continue. Abraham, par la foi, Abraham obéit quand Dieu l'appela. Il partit pour un pays que Dieu allait lui donner en possession. Un peu plus loin, il habita sous la tente, ainsi qu'Isaac et Jacob, qui reçurent la même promesse de Dieu. Car Abraham attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte. En un mot, Abraham refuse de se construire des maisons en dur parce qu'il avait en vue une cité bien meilleure. Abraham était extrêmement riche. Il aurait pu bâtir des villes, il s'y refuse parce qu'il se préparait pour ce qui est éternel. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit d'avoir une maison, une voiture, tout ce que tu veux. Oui, tu as le droit. Mais si ton cœur est attaché à cela, quel drame. Et je termine par Jésus. Il est dit de Jésus dans Hébreux 12, il a accepté de mourir sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a accepté de mourir à la croix parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Le fait de vivre avec la joie qui nous est réservée devrait nous donner la force de renoncer au péché et de vivre la vie de résurrection. Souvenez-vous, vous êtes ressuscité le jour où vous êtes mort avec Christ. Et vous êtes ressuscité avec lui à une vie nouvelle. Quand le diable viendra vous accuser, rappelez-lui menteur.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.